Jean-François Aquin.
Notre invité ce mercredi est Michel Charras, le sénateur exclu du PS qui a son franc-parler et pressenti pour entrer au Conseil constitutionnel. Avec lui, nous évoquerons l'avenir du PS, les élections régionales, la réforme des collectivités locales. Rendez-vous avec Michel Charras dans les questions du mercredi.
Une émission présentée par Jean-François Aquili avec Françoise Fressos du Monde, demain à 19h20. France Inter.
La différence.
15h04 sur France Inter. Daniel Mermet, là-bas si j'y suis.
Bonjour, c'est un cheminot qui travaille à la SNCF qui vous prévient par avance. Attention, une prise d'otage a lieu mercredi dans toutes les gares SNCF de France. Je répète, attention, une prise d'otage a lieu mercredi dans toutes les gares SNCF de France. Si vous mettez dans ce traquenard, c'est que vous n'êtes déjà plus libre.
Bonjour les AMG, salut Daniel, ici Efoué, Togolais et Français, qui appelle ce 1er février l'ensemble des auditeurs de France Inter, de là-bas si j'y suis, pour soutenir le processus démocratique qui va avoir lieu le 28 février à la fin de ce mois au Togo, dans ce petit pays de la France-Afrique qui se libère enfin et qui cherche sa libération grâce à vous, parce que c'est par ici que tout a été mis en place, cette dictature de 48 ans, donc c'est par ce peuple français, les journalistes, les médias, que les 7 millions de Togolais vont pouvoir se libérer. Ça va se passer le 28 février, ce sont les élections présidentielles. Et nous vous appelons à l'aide, nous vous appelons à la rescousse pour nous permettre de nous libérer de nos chaînes de 48 ans d'emprisonnement dans notre propre pays. Nous avons en face de nous tout ce qui peut exister de la Grande Babylone, tous les trafics des seigneurs de guerre, trafic d'armes, trafic de drogue et trafic d'influence, trafic politique ou financier, tout ce que vous voulez. Et face à ça, vous avez 7 millions de personnes qui appellent tous les Français à se mobiliser, à parler du Togo, à parler sur France Inter, à donner votre sentiment, votre solidarité. Parce qu'à travers le Togo, ce sont tous les peuples premiers, tous les peuples opprimés de la Terre qui sont aussi concernés, et l'Afrique qui demande à se libérer enfin. Il y a Obama d'un côté qui fait de son mieux, même s'il est marionnette d'un monde financier de lobby, mais à côté de ça, il y a l'Afrique et tout l'espoir qui peut être mis dans sa renaissance, et si l'Afrique renaît, le monde renaît. Au revoir.
Salut Mermet, salut les AMG. Le repère de Annecy innove. Les AMG rencontrent les AMD. Les auditeurs modestes et géniaux rencontrent les amis du monde diplo. Ce mercredi 3 février, conférence commune autour de la Bolivie. Loïc, après un séjour de 3 ans dans le pays de Evo Morales, viendra nous donner son point de vue sur la situation politique de ce pays. Début du repère à 19h. Pensez à prendre une laine, l'endroit est frisquet. Pensez aussi à prendre un pliant. Victime de notre succès, les chaises commencent sérieusement à manquer. Possibilité pour ceux qui le veulent de partager le repas après les débats, toujours dans la bonne humeur et la libre parole. Le repère de Annecy, c'est ce mercredi 3 février 2010 à 19h au Dersim à Métay. Qu'on se le dise et répète.
Encore Clairstream. Alors peut-être que les journalistes vont enfin nous expliquer clairement à quoi sert cette société luxembourgeoise. Est-ce une banque ou une blanchisseuse d'argent sale? Merci pour vos émissions, merci à Denis Robert et sa BD.
Les salariés majorettes sont en colère. Manipulation des sociétés de profit. Majorette est déclarée en redressement judiciaire depuis le 3 novembre 2009. Raison principale, une trésorerie insuffisante, ne permettant pas la poursuite de l'activité dans le modèle économique actuel. Février 2010, la trésorerie est là. On poursuit par une cession avec à l'appui un plan social pitoyable. À qui profite l'argent disponible? Pas aux salariés licenciés. Une bonne aubaine pour le futur cessionnaire qui n'aura qu'à se féliciter du prestige de l'acquisition de la marque la plus grande de véhicules miniatures françaises en éliminant un concurrent de surcroît.
Je m'appelle Caroline Bronner, je suis enseignante au Collège La Charme. Aujourd'hui, je suis en colère. Je vous ai laissé un message il y a quelques jours pour parler de Salima et Salma Boulazar. Salima est toujours en centre de rétention à Lyon, ça fait 15 jours, et son expulsion est prévue jeudi matin à 9h. Qu'est-ce qu'il faut donc faire aujourd'hui pour être intégré? Et ce soir, j'apprends l'arrestation de Youssef Ahansal. Lui aussi a été scolarisé au Collège La Charme en classe d'accueil. Et puis il a continué sa scolarité. Et il a eu 18 ans il y a quelques mois. La place de nos élèves est-elle aujourd'hui en centre de rétention ? Putain de débat sur l'identité nationale. Est-ce que le mot intégration a encore un sens en France ? Voilà, je suis en colère. Rassemblement devant la préfecture de Clermont-Ferrand, mardi 2 février à 18h. Soyons nombreux.
Bonjour, belle émission sur Wardzin. Je trouve quand même que il a manqué un peu quelque chose. Enfin, j'ai lu son bouquin, je l'ai trouvé vraiment très bien. Mais votre montage met bien en exergue avec le Honduras en début, là. Et il fait complètement l'impasse sur l'impact des États-Unis en Amérique du Sud. Je trouve quand même que ça a eu un impact sur la vie des Américains moyens. Voilà, c'était Christian de Montpellier.
La résistance, c'était magique. C'est quelqu'un qui lui a dit ça hier dans un quartier difficile du Honduras. Et voilà quelque chose qui aurait plu, sans doute, une phrase qui aurait plu, évidemment, à Howard Zinn. La résistance, c'était magique. C'est vrai que toutes les réformes qui ont été mises en place par le gouvernement déchu et par le président maintenant exilé ont laissé quand même un goût à la fois amer, mais aussi la preuve que c'est possible, non pas la grande révolution extraordinaire, mais enfin toute une série de réformes, du prix du carburant au salaire, des réformes agraires à la lutte tout simplement contre la pauvreté. Les habitants du Honduras ont compris que c'était possible. Il a fallu un coup d'État pour que les oligarques reprennent le pouvoir sur ce pays-là. Ce matin, on est sur la route du Salvador. On passe du Honduras au Salvador, un paysage magnifique, le jour se lève, le soleil, les coqs qui chantent, des grillons dans les arbres, etc. Et je suis devant une énorme publicité pour du poulet, un énorme poulet frit de 6 mètres de long au-dessus de moi, et qui dit « El secreto está en el pollo », c'est-à-dire « Le secret est dans le poulet ». J'en suis pas si sûr, mais enfin voilà le paysage dans lequel je me trouve. Tandis que vous allez pouvoir visiter le salon de l'entrepreneur. Ça c'est formidable, c'est merveilleux. Et pourquoi aller au salon de l'entrepreneur ? Eh bien c'est parce qu'en France, vous le savez, notre grand succès c'est l'auto-entreprise. Tous entrepreneurs, tous patrons de nous-mêmes. L'auto-entreprise, voilà l'avenir. Et l'an passé, exactement au même moment, là-bas, si j'y suis, avait consacré une émission à ce sujet que nous vous proposons de réécouter aujourd'hui pour voir à quel point nous nous sommes trompés et s'il y a une part de vérité dans ce que nous vous avions alors proposé. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37. Et n'oubliez pas, le secret est dans le poulet.
Oui, bonjour Daniel. Sais-tu qui se cache derrière les malheureux qui ont des crédits revolving, genre Finaref, hein, pour ne rien te cacher ? Eh bien, c'est le bon brave Crédit Agricole qui assure, qui marche avec Finaref. Pour une dette de 4 800 €, un remboursement de 80 € par mois, il y a 100 € de frais, 30 € pour l'assurance et 80 € pour les intérêts. Nous avons calculé que pour rembourser 4 800 €, il fallait 5 ans. Et au bout du compte, le crédit et la dette se montent à 10 000 €. Quand mettra-t-on les responsables des crédits revolving en prison ? C'est vraiment dégoûtant. C'est arrivé à quelqu'un de ma famille, là, qui est emmerdé jusqu'aux oreilles. Je vous fais de gros bisous à tous et merci pour tout. Au revoir.
Bonjour, Ghislaine à Toulouse. Pour que la famille d'Erard puisse continuer à vivre, travailler et apprendre en France, la mobilisation continue. Mercredi, 14h, rassemblement place Micolo, c'est à la sortie du métro 3 Cocu. La date d'expulsion, c'est samedi. Alors venez nombreux et refusons l'inacceptable. Merci.
Bonjour Daniel, bonjour toute l'équipe et salut aux AMG. C'est Romain du repère de Beauvais-sur-Tescou. C'est pour annoncer notre première rencontre de l'année. Ce vendredi 5 février à 20h30, après nos habituels échanges sur l'actualité différente et locale, notre débat aura pour thème le genre et le sexe social. Dany en assurera l'animation. Le repère de Beauvais-sur-Tescou, c'est toujours dans le Tarn et toujours le premier vendredi du mois. Cela se passe au café-restaurant aux Tartines, chez Martine et Alain. Pour y venir, c'est facile, à mi-chemin de Montauban à Gaillac ou de Villemur à Montclar de Quercy. C'est sur la route départementale 999. Merci, à bientôt.
Aujourd'hui, Paul aurait eu 8 ans. Le matin, c'était il y a un an et demi, ma fille l'a confié à l'école. Il a fait un infarctus, c'était à Villejuif, et il a mis 4 heures pour arriver à l'hôpital d'en face. Et aujourd'hui, elle vient de recevoir la réponse, l'État n'est pas responsable. Le personnel enseignant ne connaissait pas la gravité, les pompiers n'avaient pas le matériel, et aucune place dans les hôpitaux sur Paris. 4 heures pour un infarctus d'un petit garçon qui venait juste d'avoir 6 ans. Voilà, il ne faut pas que ça se reproduise. Merci de passer ça à l'antenne. Voilà.
Le prochain repère des Champs-Sorts se tiendra ce mardi 2 février au bar L'Aquilon à 20h30. Le thème sera la réforme des collectivités territoriales ou la mort de la décentralisation. Voilà, à ce soir.
Hello. Bonjour. I'm Brian Tracy and welcome to this program.
Je suis Brian Tracy et bienvenue.
What you are about to learn can change your life.
Ce que vous allez apprendre peut changer votre vie.
These ideas, insights and strategies.
Ces idées et stratégies
have been the springboards to financial success
sont à la source de la réussite financière de millions de gens.
These principles are
Ces principes sont simples, efficaces et relativement simples à mettre en œuvre. Et pour vous aussi, ils fonctionneront si vous les appliquez dans votre vie. La bonne nouvelle, c'est que pratiquement tout le monde commence fauché. Environ 99% des gens qui ont rencontré la réussite financière ont commencé fauchés ou presque. Et ce que des milliers, des millions de gens ont fait, vous aussi, vous pouvez le faire. En fait, la plupart des millionnaires sont des gens comme tout le monde, avec des niveaux d'éducation comme tout le monde, qui ont des boulots comme tout le monde, qui vivent dans des maisons comme tout le monde, dans des quartiers comme tout le monde et qui conduisent des voitures comme celles de tout le monde. Et lorsque vous penserez comme eux, et que vous ferez comme eux, vous aussi, vous obtiendrez les mêmes résultats qu'eux.
Let us begin.
Nous pouvons commencer.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la messe J'y suis avec Pascal Pascariano et Renaud Lambert. Culture de l'audace, goût de l'impossible, l'auto-entrepreneur.
L'homme que vous entendez est un auto-entrepreneur. Il vient de créer son activité d'un simple clic sur l'auto-entrepreneur.fr. Désormais, il peut réaliser ses projets, compléter ses revenus en toute simplicité.
Le gouvernement encourage votre talent. Devenez auto-entrepreneur. Déclarez-vous sur le site l'auto-entrepreneur.fr ou au centre de formalité des entreprises près de chez vous. C'était un message du ministère de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi.
Au 1er janvier 2009, l'auto-entrepreneur existera en France. Nous allons transformer les talents en argent grâce à ce nouveau régime de l'auto-entrepreneur qui s'adresse à tous, que l'on soit jeune, que l'on soit salarié voulant compléter son revenu, ou que l'on soit retraité. Eh bien, ce nouveau régime s'applique à tous. Pas de charges, pas de taxes, pas de TVA. Pas d'impôt sur les sociétés, pas de taxes professionnelles. Pendant 3 ans, vive l'auto-entrepreneur.
Bravo, 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 bravo. Formidable, formidable, quelle merveilleuse idée. Vous vous souvenez ? Travailler plus pour gagner plus. Belle formule ! Travailler plus pour gagner plus. Mais pratiquement, ça voulait dire quoi ? Eh bien voilà la réponse. Devenez auto-entrepreneur. Vous allez travailler plus et vous allez gagner plus. Voilà. Vous voulez arrondir vos fins de mois, vous êtes un travailleur pauvre, vous voulez vous en sortir, vous avez une maigre retraite, vous voulez arrondir vos revenus, eh bien, l'auto-entreprise devenez auto-entrepreneur. Tous les Français, sans exception, peuvent devenir auto-entrepreneurs, que ce soit à titre principal, pour par exemple créer sa première activité en même temps que ses études, pour un chômeur qui veut se lancer, ou à titre complémentaire, pour un salarié du secteur privé, un fonctionnaire ou un retraité qui souhaite développer une activité annexe en complément de son salaire, de son traitement ou de sa retraite. Alors vous pouvez poser vos questions à Hervé Novelli, qui est l'initiateur, le promoteur de cette idée absolument géniale. Il est secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services. Il fait beaucoup de choses pour un seul homme, mais ça n'empêche pas de lancer, vous avez entendu avec quel enthousiasme, ce programme spécial auto-entrepreneur. Alors avec Pascal et Renaud, on est au Salon des Entrepreneurs, au Palais des Congrès à Paris, et bien évidemment nous sommes à ce stand qui, l'auto-entrepreneur, c'est faire fructifier votre talent. Donc ça vous concerne tous, amis auditeurs de France Inter et de là-bas si j'y suis, vous avez envie de faire fructifier votre talent, donc restez à l'écoute jusqu'à 16h, c'est là-bas si j'y suis.
C'est d'être un président, ou bien n'importe qui, et de prendre le temps d'aider un ami. C'est de gagner en bourse, comme on jouait aux billes, et de finir sa course, le soir en famille. Réussir sa vie, c'est d'abord choisir, c'est d'avoir envie, de tout devenir.
Aventurier.
Moi j'ai terminé mes études aux États-Unis et c'est là-bas que j'ai créé ma première entreprise.
Chasseur de rêves.
N'ayez pas peur, cultivez la culture de l'audace et le goût de l'impossible.
Passionné.
Il n'existe plus d'autres ascenseurs sociaux à part l'entrepreneuriat. Il faut que ça se démocratise, il ne faut plus que ça soit un sport de haut niveau, exercé uniquement par quelques fous, par quelques audacieux, mais il faut qu'il devienne plus populaire.
Entrepreneur, demain, cela pourrait être vous. Les journées de l'entrepreneur, du 17 au 23 novembre 2008.
Et votre numéro de téléphone ?
Oui, alors je vais bien vous le donner, mais s'il faut, on peut m'appeler mais vraiment en ultime recours.
Alexandre Chérel, vous êtes au stand du salon de l'entrepreneur.
C'est ça, et donc je travaille à la DGCIS, Direction Générale de la Compétitivité de l'Industrie des Services.
Et c'est vous qui présentez donc ce qu'est l'auto-entrepreneur.
Disons que je travaille au bureau actuellement du droit social de l'environnement fiscal, qui suit plus particulièrement la réforme de l'auto-entrepreneur.
Et qui peut être auto-entrepreneur ?
Tout le monde, sauf quelques catégories très spécifiques, comme les artistes-auteurs, l'activité sportive. Par exemple, Zinedine Zidane ne pourra pas être auto-entrepreneur en tant que footballeur. Enfin, je ne pense pas qu'il en ait tellement besoin non plus. Disons que c'est un régime qui a été créé pour permettre à ceux qui voulaient se lancer dans une activité de le faire sans être découragés d'entrer par de trop fortes cotisations fiscales et sociales. Il y a quantité de gens qui me disent qu'ils aimeraient bien entreprendre, mais ils ne peuvent pas parce que d'entrer, les minimales sociales leur cassent les reins. Voilà, les empêchent de s'installer. Et les banquiers ne leur font pas confiance. Moi, au contraire, je dirais que ce régime permet de donner satisfaction à des vocations qui, jusque-là, étaient contrariées, quoi. Mais sincèrement, je ne pense pas qu'il y ait besoin d'une fibre particulière. Et vous savez, des gens qui sont au chômage Moi, je pense que oui, ils font preuve de courage en voulant devenir auto-entrepreneur, mais c'est aussi vraiment la volonté de sortir de leur situation. Pareil pour les retraités qui ont une retraite qui est soit vraiment très faible, ou des gens qui ont une activité salariée qui ne leur plaît pas forcément.
Voilà comment Alexandre Chérel présente ce statut, ce nouveau statut d'auto-entrepreneur. On va savoir qui peut accéder à ce statut. On nous dit que c'est quelque chose de très facile. Il suffit de quelques clics sur Internet et vous voilà auto-entrepreneur. Vous pouvez, vous avez compris, arrondir vos fins de mois, payer vos études, vous sortir du chômage. Enfin, il semble bien que ce soit une excellente solution, un excellent remède à la crise. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelques pièges? Vous savez, comme nous sommes circonspects et un peu sceptiques, nous autres de la base, j'y suis, les journalistes en particulier. Et vous allez voir aussi un certain nombre de visiteurs de ce salon qui émettent quelques doutes, dont ils font part à quelqu'un comme Nathalie.
Bonjour, je suis retraité.
Très bien, on a beaucoup de retraités, effectivement.
Il y a beaucoup de retraités.
Oui. Et je voulais démarrer une activité d'import-export. Donc je voulais savoir si ce statut d'auto-entrepreneur était en adéquation avec moi, avec un tel projet.
C'est tout à fait possible. Vous ne devrez pas dépasser le chiffre d'affaires de 80 000 euros.
Pourquoi vous voulez devenir auto-entrepreneur?
Parce que c'est une bonne manière de démarrer une activité avec peu d'argent.
Mais là, vous êtes retraité, vous ne voulez pas profiter de votre retraite? Vous avez une retraite de combien à peu près?
Faible.
Je suis dans le même cas que monsieur, je voulais vous poser un peu la même question.
Je vais être curieuse, vous avez quel âge tous les deux?
Ah, on est... Ça ne se dit pas l'âge.
je suis très vieux. Pour ma part, c'est 69 ans.
60 ?
9.
Vous voyez, on a encore tout l'avenir devant nous.
Mais en pleine forme. Non, et 9.
Moi, je me demandais combien vous aviez à peu près par mois de retraite, à peu près.
Ah ben, quelque chose d'absolument minable, à savoir que j'ai cotisé plus d'années que nécessaire.
C'est-à-dire, vous avez cotisé combien d'années ?
Oh, ben, j'ai environ 3 ans de plus. J'ai pris ma retraite à 67 ans. Au début, il m'avait donné le minimum, qui est de 628. Et comme je touche une petite complémentaire de 100 euros, ils m'ont raboté le minimum. Et maintenant, je suis à 600 euros. Après avoir commencé de travailler à 14 ans, et avec tout ça, avoir si peu, je suis carrément, déçu.
Et alors, si on demandait de rehausser plutôt les retraites, non ? Plutôt que de faire le statut de l'auto-entrepreneur, on pourrait commencer à demander à rehausser les retraites, non ?
Ça aurait un coût budgétaire qui n'est pas le même.
À avoir des retraites plus grosses ?
Nathalie, vous vous dites qu'il y a un coût budgétaire qui n'est pas le même ?
Bah oui, effectivement. Là, les gens créent leur propre activité, vont créer de la richesse, mais vont travailler eux-mêmes.
On sent que c'est un enthousiasme quand même modéré. Si vous connaissez un inspecteur du travail ou si vous avez quelques connaissances en matière de droit du travail, ce qui est bien souvent le cas des travailleurs et des salariés, évidemment, vous avez compris que ce statut de l'auto-entrepreneur s'est poussé à l'indépendance et c'est la fin de toutes les solidarités. Détruire les solidarités, c'est une vieille histoire. Une très très vieille histoire. On pourrait remonter à la loi Le Chapelier. C'est une loi qui fut promulguée en 1791, pendant donc la Révolution française. Et c'est une loi, monsieur Le Chapelier est un monsieur qui a existé, qui visait à proscrire les coalitions, notamment les corporations, mais aussi les rassemblements paysans et ouvriers, ainsi que le compagnonnage. Pourquoi je parle de ça ? Bien pour dire que c'est une vieille histoire, c'est une vieille lutte que celle du capital et du travail. Eh oui, nous y revoilà. Entre celui qui achète le travail ou qui loue la force de travail de l'autre et celui qui vend sa force de travail, eh bien, il y a depuis fort longtemps un rapport de force. Et face à celui qui détient le capital, qui est l'acheteur de la force de travail, et celui qui détient la force de travail, évidemment, le rapport de force est inégal. Celui qui vend sa force de travail, c'est-à-dire le travailleur, qu'est-ce qu'il a pour lui ? Eh bien, le nombre, l'organisation, c'est-à-dire, eh bien, tantôt la corporation, tantôt, ce sera au cours du 19e siècle, le syndicat. Oui. Alors, en détruisant le syndicat, eh bien, on détruit la seule force dont les travailleurs, les vendeurs de force de travail, disposent. C'est très simple, ce que je vous dis là. Et il se pourrait bien que derrière cette proposition alléchante, en effet, ce nouveau régime de l'auto-entrepreneur, on assiste, on vive une étape supplémentaire, une étape de plus dans cette longue histoire, ce long affrontement entre le travail et le capital, entre les dominants et les dominés. C'est une explication possible. En voilà une illustration à travers les questions de ce visiteur sur le stand auto-entrepreneur.
Je voudrais savoir, au niveau de l'achat-revente,
oui,
le pourcentage des frais à payer, social, les charges, c'est sur le chiffre d'affaires ou le bénéfice ?
Le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est une question qui est très souvent posée.
Ben oui, parce que s'il n'y a pas une marge suffisante, eh bien, on est banané. Hein.
Ah oui, absolument. C'est une limite importante au régime. Hein. Donc, on ne peut pas déduire ses frais, c'est une limite importante. Et par exemple aussi pour les VRP, les voyageurs de commerce, qui ont des gros frais d'essence, de garage et d'hôtel, ils ne peuvent pas les déduire.
C'est des risques importants à prendre, ben parce que les frais...
Oui. Il y a ceux qui sont VDI.
Non, mais c'est quoi VDI, monsieur ?
Vendeur indépendant à domicile. Ceux qui sont VDI, oui. les boîtes le disent, vous pouvez vous mettre à auto-entrepreneur.
Oui, ils peuvent en droit, ça leur est pas interdit.
Ils n'ont pas des marges énormes, ils ont des marges de 20-30% maximum.
Et puis
au moment des charges, il ne restera plus rien.
Ça, vraiment, il faut que les gens soient bien au courant.
Il y en a qui n'y croient pas, hein, et qui croient que c'est sur le bénéfice.
Malheureusement, c'est comme des gens qui croient que le régime de l'auto-entrepreneur, c'est le régime de l'entrepreneur de l'auto. Bon, heureusement, vous dites, l'information ne peut pas complètement passer.
Qu'est-ce que vous en pensez, là ?
J'ai la confirmation que j'avais raison, et que c'était sur le chiffre d'affaires et pas sur les bénéfices.
Ça veut dire que c'est à l'auto-entrepreneur d'endosser tout.
C'est-à-dire que là, il y a en tant qu'auto-entrepreneur au vendeur, acheteur au vendeur, il y a 23% de charges, je crois. Si vous avez un bénéfice de 20 ou 25% ou 30%, il ne vous reste rien. Rien.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce nouveau statut d'auto-entrepreneur ?
C'est un attrape-couillon. Hein.
J'ai vraiment la niaque, j'ai la pêche, comme tous les matins d'ailleurs. Je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'au fond de moi je suis un winner. Par exemple cet été au ping-pong, j'ai remarqué que j'aimais bien être number one. Ici c'est comme au ping-pong, sauf que les balles sont des dollars et que les raquettes sont des dossiers. Quand j'arrive le matin sur les coups de 7h-7h02, je suis comme un fou, je m'éclate. C'est ce que j'appelle ma symbiose corporate. Je suis dans ma boîte et ma boîte est à l'intérieur de moi. Et je peux vous dire que là-haut, ils apprécient ça énormément. Et je vais même vous dire un truc qui va vraiment vous étonner. Je mets la barre tellement haut que parfois même moi je m'impressionne. C'est complètement hallucinant. En fait, je m'impose un tel contrôle qualité que je suis arrivé à un niveau de zéro défaut. Bref, je suis un excellent produit.
Site de l'auto-entrepreneur. www.lautoentrepreneur.fr. Question, réponse. Je suis artisan ou commerçant. Est-ce que je peux bénéficier du régime auto-entrepreneur ? Oui, dans la mesure où vous relevez du régime fiscal de la micro-entreprise. Je suis actuellement salarié. Puis-je bénéficier du régime auto-entrepreneur ? Oui, le cumul avec une activité salariée est possible. Je suis actuellement retraité. Puis-je bénéficier du régime de l'auto-entrepreneur ? Oui, un retraité peut exercer une activité dans le cadre du régime de l'auto-entrepreneur. Est-ce que je peux faire adhérer mes salariés au régime auto-entrepreneur ? Non, ce régime est réservé aux professions indépendantes.
J'étais commercial dans une imprimerie et j'ai été licencié. Mon précédent employeur me propose de monter une auto-entreprise et de me rémunérer sur les affaires que je peux lui ramener sous forme de d'honoraires ou de commissions.
Oui.
Donc, est-ce que ça rentre dans le cadre de
auto-entreprise ?
Bien sûr. Parce qu'on m'a demandé de voir si c'était intermédiaire du commerce ou apporteur d'affaires.
Alors, à mon avis, parce que concrètement, comment vous travailleriez avec votre...
Je lui ferai des notes d'honoraires.
Et pour des conseils,
pour des conseils, oui.
Oui, ben ça c'est
où je mets en relation deux entreprises l'une avec l'autre.
Oui, ben c'est apporteur d'affaires.
Donc quel est le plus
30, donc c'est les services, c'est 32 000 apporteur d'affaires, c'est pas commercial.
D'accord, apporteur d'affaires.
Voilà.
Et je fais mes formalités à la Chambre de commerce et d'industrie.
Alors là non, c'est à l'URSSAF. C'est du service à l'URSSAF que vous devez vous déclarer.
OK. Et je peux cumuler ça avec un autre emploi.
Tout à fait, absolument, il y a pas de problème.
D'accord. Merci.
Je vous en prie. C'est un emploi d'autre poste salarié, vous voulez dire ?
Oui.
Oui, il n'y a pas de problème, absolument.
D'accord. Ah, oui, bien sûr, vous êtes employeur, vous écoutez, vous dites « Ouh !» Moi, je sais ce que je vais faire de mes salariés, je vais en faire des auto-entrepreneurs. Et ouais, voilà, mes salariés terminés, et maintenant, ils me facturent les heures de travail, mais quand j'en ai besoin, et voilà, sous c'est tentant. Ah non, en principe, non, pas de ça dans le statut d'auto-entrepreneur. Alors, on a voulu quand même en savoir plus, vous savez que on est curieux de tout, et on a appelé la ligne, le hotline de auto-entrepreneur, et voilà ce que ça a donné.
Bonjour, bienvenue sur le service d'information de l'auto-entrepreneur.
Je vous explique, je suis chef d'entreprise. Et hier soir, lors d'un cocktail, en fait, j'ai rencontré un collègue qui est également chef d'entreprise, qui m'a expliqué l'utilité de ce nouveau statut auto-entrepreneur. Et la question qu'on se posait également, c'était de savoir, est-ce que, par exemple, moi, en tant que chef d'entreprise, j'ai le droit de faire adhérer mes salariés à ce régime ?
Tout à fait. Dans la pratique, je suis au courant que des patrons, des chefs d'entreprise comme vous, profitent et bénéficient du statut pour avoir des salariés de manière à ce que effectivement ça soit moins lourd pour eux du point de vue du paiement des charges patronales. Ça c'est possible, vous pouvez vous recruter des gens sous ce statut-là. C'est là qu'on émet des réserves parce que sinon ça revient à déchirer en deux le code du travail. Tout le monde, tous les patrons prennent des salariés en tant qu'auto-entrepreneurs. Pour eux, la conséquence elle est directe, c'est-à-dire que moi je suis auto-entrepreneur avant d'avoir un an de cotisation, j'ai pas le droit d'avoir l'arrêt maladie. Donc ça, c'est un petit peu gênant. Les congés maternité, on peut pas y prétendre non plus. Mais comme il y a des failles, si vous voulez, dans le dispositif, bien, libre à vous, libre aux auto-entrepreneurs et aux chefs d'entreprise de s'y engouffrer. Moi, là-dessus, j'ai aucun problème. Si vous trouvez des gens qui veulent travailler pour vous sans avoir possibilité de prendre des congés, des arrêts de maladie, il y a pas de problème. Vous en trouverez, j'en suis sûr. Mais bon, voilà, je vous ai donné mon assentiment. Je vous ai dit que c'était un statut d'indépendant, puisque ma hiérarchie me l'a dit de le communiquer. Malgré tout, il n'y a aucun problème. De toute façon, c'est possible, vous pouvez le faire. Moi, ça ne me gêne pas, et c'est autorisé.
Oui. Je me dis que, bon, moi, des CDI, j'en fais plus. J'ai encore des CDD. Bon, je vous avoue, c'est encore un carcan. Donc, si je signifie à un de mes salariés qui est en CDD que je ne vais pas lui renouveler son CDD, mais qu'en revanche, je veux bien l'embaucher en tant qu'auto-entrepreneur, il a tout à y gagner finalement.
Oui, enfin, bien entendu, oui. C'est mieux ça que d'être au chômage, je suis d'accord avec vous. Pour vous, il y a tout à y gagner, mais pour lui, comme je vous disais, le salarié qui tombe malade, il n'y aura pas d'indemnité d'arrêt maladie avant la première année de cotisation. Et ça, c'est éventuel. Bon, ce n'est pas l'aspect de l'accident que vous étudiez, je comprends bien. Moi, quand j'ai un salarié qui m'appelle, qui me dit j'ai mon patron qui veut que je sois auto-entrepreneur, je manque pas de lui dire comment ça se passe, afin qu'il ait toute l'explication et la vue d'ensemble du statut de l'auto-entrepreneur. Après, quand il a tous les éléments à sa connaissance, qu'il fait un consentement libre et éclairé, il n'y a aucun problème.
Entre nous, c'est pas de ma faute s'il y a des failles et si on privilégie le chef d'entreprise et qu'on n'en a rien à faire du salarié.
Mais tant mieux, madame. Effectivement, moi, de toute façon, je suis de votre avis. Je serai patron, je ferai comme vous. Dans le statut, si vous voulez, dans les textes, on nous a présenté ça comme un statut pour justement créer de la richesse. Dans la mesure où quelqu'un va avoir le choix entre garder son emploi sous auto-entrepreneur et perdre son emploi, vous voyez, la création de richesse, moi, je la vois plus sous le même aspect. Et c'est là que s'arrête ma réserve, tout simplement. Si vous voulez, l'auto-entrepreneur, on a fait des grandes campagnes médiatiques en disant que ça allait créer beaucoup de richesses. Mais si au final, c'est pour que les gens qui soient salariés se retrouvent dans des situations, excusez-moi, mais un petit peu plus délicates, bon, moi, c'est mon analyse personnelle, elle n'engage que moi. Hein. J'ai le droit, malgré tout, même si je suis employé ici, d'avoir une vision un petit peu plus relative du statut de l'auto-entrepreneur.
Bah, et surtout, moi, je me dis aussi, ça me permettrait de descendre en dessous de 50 salariés. Oui. Ce qui me permettrait justement d'éviter la représentation syndicale. Enfin, vous voyez, d'éviter d'avoir à être obligé d'avoir un syndicat, même si...
Oui, bien sûr. C'est un bon système. En effet, madame, je vous félicite pour votre analyse pertinente de la situation, effectivement. J'ai fait des études de droit. J'ai passé plusieurs années à étudier le droit du travail. C'est pour m'apercevoir qu'on arrache chaque jour une page. Bon, ça m'embête un petit peu, mais malgré tout, il n'y a aucun problème.
D'accord,
moi, tant que j'ai du travail et que j'informe justement les gens sur ce statut et les possibilités qu'il existe pour vous de gagner le plus d'argent, j'aurai toujours des choses à faire, je pense, dans le droit. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça, madame. Je vous remercie en tout cas de votre analyse pertinente. Je crois que avec votre analyse, vous allez certainement très bien gérer vos affaires, madame. Et écoutez, j'ai rien à ajouter. Tout est clair pour vous, madame.
Je vous remercie en tout cas.
Merci de votre écoute. Bonne journée.
Au revoir.
Y'en a marre des pauvres. Les pauvres, ils font aucun effort pour devenir riches. Y'en a marre des pauvres. Quand ils jouent au loto, ils réfléchissent même pas à ce qu'ils cochent. Y'en a marre des pauvres. Et s'il y avait un peu moins de pauvres, ben y'aurait pas toute cette misère. Marre des pauvres, marre des pauvres. Y'en a nananana. Y'en a marre des pauvres, oh oui. Marre des pauvres, marre des pauvres. Y'en a nananana. Y'en a marre des pauvres. Ils enrichissent les riches, du coup faut pas qu'ils s'étonnent. Mais ils sont toujours aussi pauvres. Marre des pauvres, marre des pauvres. Ils font chier, ils font chier, ils font chier. Ils sont maigres. Marre des pauvres, marre des pauvres. Ils font chier, ils font chier. Ils mangent encore plus mal que nous. Y'en a marre des pauvres. Les pauvres, arrêtez de vous plaindre. Vous cachez le bonheur des riches. Y'en a marre des pauvres. Heureusement, les très très riches, tout le monde peut crever, ils s'en foutent. Y'en a marre des pauvres. Et puis c'est facile de se plaindre quand on sait qu'on est la majorité.
Croire que de changer de système, c'est intéressant. Bon, ça ne l'est pas.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer juste, en fait, c'est trompeur parce qu'ils oublient que vous devez payer beaucoup de choses, c'est ça ?
Oui, c'est parce que dans ce système-là, on ne parle que du fiscal. Et on propose à un individu de changer de système et de partir dans l'auto-entreprise. Et on lui dit que le gain fiscal sera de 619 euros, ce qui est vrai. Mais il aura payé l'URSSAF. Et en payant l'URSSAF, il vaut mieux rester dans son système précédent.
Oui, bon, mais je vous dis, ça, c'est une présentation assez succincte qui ne saurait suppléer.
Hein.
Oui, oh, ben, non, mais c'est avec ça, je veux dire. C'est pour. Il y a des choses qui ne sont pas claires, c'est pour ça qu'on est là. C'est pour...
On croit que c'est intéressant, mais il manque 20% de charges là, pour que ça soit vrai.
Non, mais c'est pour ça qu'on est là, pour compléter l'information des gens. Alors, quand on est là physiquement ou au téléphone. Parce ou...
Là, c'est arrayé, ça.
Oui, non, mais il y a des imperfections, je vous dis. De toute façon, aucun support écrit ne pourra tout expliquer du régime de l'auto-entrepreneur. D'abord parce qu'à mon avis, celui qui sera capable de faire ça, à part Chuck Norris, je vois vraiment pas qui en serait capable. Et deuxièmement, même si on y arrivait à le faire, ce serait une espèce de monument qui serait complètement inexploitable et illisible. Donc, voyez.
Enfin, c'est embêtant parce que c'est quand même la plaquette du ministère de l'économie qui
c'est
présente.
C'est un flyer. Il y a des plaquettes.
Ça, c'est un flyer, vous dites.
Oui, enfin non, ça c'est.
En même temps, il y a écrit le guide de l'auto-entrepreneur.
C'est un guide. Le flyer, c'est autre chose. Enfin, c'est un guide, c'est un petit guide, quoi.
Mais c'est prendre des risques, quand
alors,
même.
Alors, c'est prendre des risques. Bah, je dirais que quand vous êtes chômeur, le risque est, on a pratiquement plus rien à y perdre. Surtout si on s'est désinscrit du chômage avant, qu'on garde ses allocations chômage au chaud, quoi.
Mais là, on les perd.
Alors, s'il vous plaît, votre attention, c'est une question, là aussi, qui est très, très importante. C'est qu'il concerne les cotisations qu'on doit payer sociales au titre de l'activité d'auto-entrepreneur. ces cotisations, elles, elles permettent de financer votre protection sociale intégralement, hein, maladie, retraite de base, retraite complémentaire, sauf le chômage, malheureusement. Parce que quand vous êtes auto-entrepreneur, vous ne validez pas le droit au chômage au titre de votre activité d'auto-entrepreneur. C'est très important, ça.
Votre prénom ? Florence. Alors écoutez, moi je fais partie de l'association Force Femmes. Voilà, je suis bénévole, chef d'entreprise, et je donne un peu de temps à cette association dans le cadre de son activité d'entrepreneuriat, de retour à l'emploi des femmes de plus de 45 ans ou de formation d'un projet et de création de leur projet, de formation d'une entreprise ou de leur propre emploi.
Vous êtes à la tête de quelle entreprise ?
Alors, j'ai une petite entreprise qui s'occupe d'éditer du papier peint avec des techniques anciennes, voilà. Éditeur d'art, on peut dire comme ça.
Éditeur d'art.
Voilà, voilà.
Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le chef d'entreprise est suffisamment soutenu par les Français ou pas ?
C'est un statut qui est mal compris, qui est mal aimé, voilà. Mais qui est mal aimé parce qu'il est mal compris. Parce que je pense que le niveau des Français, d'une façon générale, n'a pas de formation économique, donc ne s'intéresse pas au monde de l'entreprise. En tout cas, s'il s'y intéresse, ce n'est pas pour les bonnes raisons.
Je crois que vous voulez voir Florence, peut-être.
Ben, bon, je voulais savoir un peu qu'est-ce que vous offrez comme aide. Moi, en fait, je suis encore actuellement salariée, mais je vais me retrouver dans un plan de pré-retraite.
Oui.
Bon, donc j'ai 53 ans, je voudrais reprendre une activité. Bon, moi je travaille dans l'industrie pharmaceutique, hein, actuellement. Donc en fait, moi j'envisage peut-être de créer une entreprise un peu de conseil et de service à l'industrie, quoi, hein, à partir de ce que je sais faire. Hein, parce que de toute façon, le retour vers le salariat, bon, me paraît un petit peu difficile.
Nous, ce que l'on voit surtout, c'est des femmes qui, dans le cadre de la création d'entreprise, veulent créer leur propre emploi. Mm-hmm. Voilà.
Oui, mais c'est un peu mon cas. J'ai quand même été salariée jusqu'à maintenant, donc bon,
combien d'années ?
Ça fait 18 ans que je suis salariée. C'est une mise en pré-retraite, si vous voulez, hein. Donc en fait, bon, moi je trouve que je suis jeune, quoi. Enfin, jeune, c'est peut-être un bien grand mot, mais je veux dire, je suis pas très vieille quand même, donc je m'attendais pas vraiment à ce que ça m'arrive, quoi. On parle beaucoup du chômage, du problème du travail des jeunes, mais il y a le problème des gens qui ont autour de 55 ans et dont les sociétés cherchent à se débarrasser pour quelque part diminuer le nombre de licenciements, en fait. Hein. Je dois reconnaître que c'est pas facile à accepter, parce qu'en plus, bon, c'est une remise en cause complète pratiquement de toute sa vie professionnelle. C'est pas non plus seulement du temps qu'on a passé dans l'entreprise où on est actuellement, mais c'est de se dire d'un seul coup, qu'est-ce que je vais faire, quoi. Voilà, c'est ça qui est un peu difficile, je trouve. Mais bon, maintenant, on pousse les gens à être auto-entrepreneurs, entre guillemets, parce qu'il n'y a plus assez de travail sur le marché. Mais bon, quand même, tout à l'heure, j'ai assisté à un topo où on disait qu'il y a quand même, au bout de 5 ans, il y a que 50% des entrepreneurs qui sont encore sur le marché. Donc, je veux dire, je ne me fais pas d'illusions. Je pense que c'est difficile. Puis, bon, ils expliquent un peu le statut d'auto-entrepreneur. Hein. Il n'y a pas le droit aux ACEDIC après. Hein. Donc, en fait, si on est au chômage, on a le droit à rien, hein, si ça ne marche pas. Pas de formation, parce qu'en fait, on vous réduit les cotisations. Mais on vous les réduit. Mais en contrepartie, ça vous retire des droits. Hein, c'est-à-dire que quand on paye dans une entreprise, on paye un certain nombre de cotisations, mais on a le droit au chômage après, on a le droit aux formations. Là, on a le droit à rien. Donc, en fait, c'est vrai que c'est super risqué comme statut, moi, je pense. Je pense que c'est un statut très risqué.
Oui, si on réfléchit, pas de congé payé, pas de congé maternité, pas de congé en cas d'arrêt maladie, pas de remboursement, pas de droit à CEDIC, pas de formation. Mais sur le stand de l'auto-entrepreneur, il y a Alexandre Chirel qui nous rassure, mais c'est son boulot.
Quand on est auto-entrepreneur, il vaut mieux se désinscrire, vaut mieux se désinscrire des ACEDIC et ne pas être déclaré chômeur.
Quand on est
c'est toujours ça au moins de chômeur, c'est ça.
Je pense que quand on est auto-entrepreneur, il vaut mieux se désinscrire et conserver intégralement ses droits pour après. Travailler comme auto-entrepreneur toute votre vie, ce que je ne vous souhaite pas, parce qu'à ce moment-là, si vous restez en régime d'auto-entrepreneur, c'est que votre activité n'a pas démarré, ne s'est pas développée. Si vous y êtes resté toute votre vie et que vous arrêtez juste avant la retraite, tant pis, vous n'aurez pas droit à un centime d'euro de chômage.
Mais les chiffres du chômage auront baissé, donc...
Faut espérer. Mais bon...
Oui, c'est pour démarrer une activité, mais c'est pas pour durer, parce que le chiffre est vite bloqué.
Absolument, c'est vraiment... C'est ce que je dis toujours. C'est vraiment fait pour... C'est vraiment... Oui, non, mais c'est pour ça que je disais. Si vous restez toute votre vie dans le régime de l'auto-entrepreneur, c'est que votre activité n'a pas démarré. C'est comme les boosters de la fusée Ariane. Hein, ça a vocation à la faire sortir de l'atmosphère et à disparaître et à tomber avant. Enfin, si la navette n'a pas explosé en vol, quoi. Voilà.
Avec moi, ils vivent le quotidien, quelles que soient les circonstances, sans faillir avec la même constance, à la pointe du combat, toujours on les aperçoit, sachant remonter leurs manches, s'il le faut même le dimanche, ils se battent pour l'emploi, c'est ça leur honneur. Aux lèvres et l'âme sereine, avec courage vers d'autres horizons, savaient porter leurs ambitions. Aujourd'hui, écoute-moi, l'aventure elle est chez toi, juste un peu de matière grise, lance-toi dans l'entreprise, le pays compte sur toi. Allez les PME. Être patron d'entreprise, il faut que je vous le dise.
Bah, je suis chef d'entreprise. Donc aujourd'hui, évidemment, employer en CDI, c'est un gros risque, alors qu'on peut employer en auto-entreprise. Vous passez une annonce en disant que vous payez quelqu'un, même dans le bâtiment, hein, dans les endroits où ils cherchent beaucoup. Il va prendre un maçon, mais en auto-entreprise, il ne va plus le prendre en CDI parce qu'il pourra s'en débarrasser quand il veut. Et il pourra le payer 500 euros par mois si l'entreprise qui est prestataire est d'accord, etc.
Pour vous, c'est plutôt une aubaine alors en tant que chef d'entreprise d'avoir ce genre de
non? Non, bien sûr. Je veux dire, le différentiel de charges entre les 70% des charges normales et les 23% qui sont proposées par le statut d'entreprise, ça laisse quand même une grosse marge pour attirer des gens sur un salaire un petit peu supérieur. Certes, sans protection, enfin uniquement la protection qui est proposée par le statut, mais c'est tout. Donc ça permet quand même éventuellement de payer un petit peu plus cher si on en a envie, mais ça permet aussi malheureusement de payer beaucoup moins cher si la personne accepte. Et avec tous les acquis sociaux qui sautent, retraite, procédure de licenciement, à quoi on peut penser, la sécu, ça va lier, l'accident du travail lier, ça c'est dit bien sûr. Donc voilà, beaucoup de. Enfin voilà, il pourrait peut-être y avoir quand même eu beaucoup de vis derrière un statut qui a l'air attractif, c'est qu'à voir le monde qu'il y a là au stand. Mais il va y avoir une fin des CDI assez rapide. C'est parce que les patrons, si leurs actionnaires leur demandent de faire du bénéfice, ils n'hésiteront peut-être pas effectivement à utiliser ce statut pour ne plus employer en CDI.
En même temps, ça fait baisser les chiffres du chômage, donc c'est pas mal quoi.
Ah, je sais pas, on peut pas être chercheur d'emploi et auto-entrepreneur.
Ben, en fait, il vaut mieux quitter les ascétiques.
Ben, effectivement, à court terme, ça va faire des beaux chiffres.
Pas mal. Il est bien, Laurent, le patron, là. Il est simple, clair et direct. Et il ne fait pas de langue de bois. Voilà, les choses sont claires. Donc, intérêt du statut d'auto-entrepreneur, permettre au patron d'en finir avec les CDI, faire baisser le chiffre du chômage. Ce qui compte, évidemment, vous le savez bien, c'est faire baisser ce satané chiffre qui ne fait que croître et embellir. Voilà. Alors, est-ce que ceux qui ont la charge de promouvoir le statut d'entrepreneur y croient vraiment eux-mêmes tant que ça?
Bon, c'est vrai que le statut de salarié est toujours plus protecteur que le statut des indépendants. dans un monde aujourd'hui difficile où les gens ont besoin de compléter des revenus d'activité, voire d'améliorer des pensions de retraite parce que les cotisations n'ont pas toujours été à la hauteur de ce qu'on a pu travailler pendant une vie dans les circonstances actuelles, c'est vertueux.
Votre prénom ?
Thierry.
Thierry, moi il y a quelque chose qui me perturbe. Auto-entrepreneur, ça veut dire quoi ?
Je sais pas, je pense que c'est, il y a un côté slogan lié à la simplicité. Auto-entrepreneur, on crée les entreprises plus facilement.
C'est des entreprises pour une personne, c'est alors, pas une entreprise.
Auto-entrepreneur, c'est aussi c'est le régime juridique, c'est self-made man, si vous voulez, c'est un côté british, nouvelle frontière, États-Unis, je crée ma boîte. C'est. Je sais pas, trouvez ce que vous voulez.
On est responsable de soi-même, quoi, et on demande rien à l'État.
Voilà.
Il y a écrit quoi d'ailleurs ?
Une nouvelle chance, un nouveau départ, l'auto-entrepreneur.
Signé Hervé Novelli.
Absolument. Bon, il ne serait pas content, mon ministre, hein, parce qu'il y croit à son truc. Hein.
C'était un reportage de Pascal Pascariello et Renaud Lambert, nouvelle diffusion le 12 mars 2009, à l'occasion du Salon de l'Entrepreneur 2010 qui s'ouvre demain au Palais des Congrès à Paris. Pour retrouver toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, à la technique aujourd'hui Henri Bérec et Jean-Noël Vélan, à la réalisation Coyen Guyenne et Raphaël Moutarde, assistante Agnès Lebotte, chef du répondeur Catherine Pinto. Le numéro du répondeur de Là-bas si j'y suis est le 01 56 40 37 37, notez bien le numéro de téléphone, 01 56 40 37 37.
Il n'y a environ qu'un pour cent des gens qui soient capables de vraiment prendre des risques que prend un chef d'entreprise. 99% des gens peuvent travailler pour une entreprise quand elle est bien établie. Mais seulement 1% ont le courage et la capacité de faire le pas et de devenir des chefs d'entreprise créateurs d'emplois.
I'm not.
Dans quelques minutes, Frédéric Laudéon pour son Carrefour de l'Odéon. Et bienvenue si vous venez seulement de nous rejoindre sur France Inter.
Waouh, elle est chouette ta nouvelle voiture.
Oui, merci.
Et t'as dû l'assurer tout risque, j'imagine.
Non, aucun risque.
Hein?
Bah oui, avec l'assurance auto de la MACSF, je ne prends aucun risque. Quoi qu'il m'arrive, la MACSF m'accompagne au quotidien. Crevaison, panne d'essence, elle trouve toujours la solution, même si je me trompe de carburant.
C'est ce qui s'appelle ne prendre aucun risque.
Oui, appelle la MACSF au 3233 ou va sur macsf.fr. C'est pour tous les professionnels de la santé.
3233, aucun risque de l'oublier.
MACSF.
Notre vocation,
c'est vous. Prix d'un appel local.
Nous sommes au Futuroscope pour vous parler de l'attraction imaginée par Luc Besson. Arthur, l'aventure 4D, un vol à dos de coccinelle au pays des Minimoys.
Oh, regarde un peu devant toi, il appuie sur le champignon.
Un concentré technologique qui lui commande pour vivre le grand frisson.
Oh, et c'est normal qu'on fonce droit sur une grosse toile d'araignée.
Après les films, l'attraction. Découvrez Arthur, l'aventure 4D au Futuroscope. Une réalisation du département de la Vienne. Futuroscope, votre prochaine destination séjour. Futuroscope. Retrouvez les tarifs et les promotions sur futuroscope.com.
Quoi de neuf depuis un an?
J'ai changé de voiture.
Je me suis marié.
Moi, je suis devenu auto-entrepreneur.
Depuis un an, vous êtes plus de 300 000 à vous être inscrit sur l'auto-entrepreneur.fr. C'est tellement simple aujourd'hui de monter un projet ou de cumuler deux activités en profitant de démarches et d'un régime fiscal simplifié.
L'auto-entrepreneur.fr, c'est si simple d'entreprendre.
C'est un message du ministère chargé de l'économie.
Vous écoutez France Inter, il est 16h. Les informations, Julie Gacon.
Bonjour. S'il n'est pas encore de loi pour interdire le port du voile intégral dans les services publics, le gouvernement peut-il agir par décret pour sanctionner ceux qui l'imposent et tant qu'à faire au cas par cas? Éric Besson a contresigné cet après-midi un projet de décret refusant d'accorder la nationalité française à un ressortissant étranger qui imposait le port du voile intégral à sa femme. Le texte a été transmis à François Fillon. Le ministre de l'Immigration et de l'Identité nationale avait déjà fait part de ses volontés en début d'année, avant même les conclusions de la mission parlementaire sur la question. Les syndicats de la SNCF espèrent mobiliser 40% des salariés ce soir pour dénoncer la réforme du fret et le manque de moyens. En général, mouvement de grève à l'appel des quatre plus grosses fédérations de cheminots. Il commence à 20h. On prévoit 2 TGV sur 3 en moyenne, 1 corail sur 2, 1 TER sur 2 et 2 transiliens sur 3. Kofi Yamnian, ancien secrétaire d'État français, ancien député socialiste de 1997 à 2002. Kofi Yamnian, aujourd'hui prétendant à la présidence du Togo, si les autorités le veulent bien, car la Cour constitutionnelle togolaise vient de rejeter sa candidature pour le scrutin du 28 février prochain. On lui oppose des vices de forme, l'existence de 2 dates de naissance différentes dans son dossier. Mais son avocat, lui, dénonce une position politique, maître Christian Charrier-Bournazel.
Comme la Cour constitutionnelle est une juridiction souveraine, je ne vois pas quel autre recours je pourrais avoir.
Il n'y a pas de recours, pas d'appel.
Aucune Cour constitutionnelle ne peut se voir attaquer ses décisions. C'est la même chose pour le Conseil constitutionnel en France ou pour la Cour constitutionnelle belge. Je ne vois pas très bien comment je pourrais faire autrement que de demander à la Cour de réviser sa décision. C'est ce que je vais faire. Je ne vois pas très bien comment la France pourrait s'en mêler autrement que de manière diplomatique en incitant les autorités togolaises au plus haut niveau et d'abord le président à faire en sorte que les élections soient les plus démocratiques possibles.
Vous demandez plus précisément à la France de faire, entre guillemets, pression sur le président Yassine Bey?
À l'Europe même, j'ai écrit au président Van Rompuy pour lui faire part de ma préoccupation. J'ai écrit à madame le député européen Eva Joly, qui est présidente de la commission du développement dans les institutions européennes.
Et au président Sarkozy ou à monsieur Kouchner au Quai d'Orsay?
J'ai écrit à monsieur Kouchner, bien sûr, et l'Élysée est évidemment au courant.
Propos recueillis par Yves Izard, Kofi Yamnian estime être le candidat le plus dangereux pour le Rassemblement du peuple togolais, le parti au pouvoir. Plus de 4 millions de personnes ont besoin d'une aide alimentaire au Sud-Soudan. 4 millions, c'est la moitié de la population de la région. Les besoins ont quadruplé en un an, s'émeut le PAM, le Programme Alimentaire Mondial, en cause les violences, mais aussi la sécheresse. Hamid Karzai vient chercher l'aide de l'Arabie Saoudite pour son initiative de paix. Une semaine après la conférence de Londres, le président afghan est arrivé à Riyad, dont il espère obtenir une intermédiation auprès des talibans. Riyad est l'une des 3 capitales qui avaient reconnu le régime des talibans renversé en 2001. Aujourd'hui, elle se dit prête à aider Hamid Karzai à condition que celui-ci lui assure qu'il n'offre pas refuge au chef d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden.
Chers amis, bonjour, c'est Nicolas Stoufflet pour le jeu des 1000 euros. Je vous attends pour des enregistrements en public aujourd'hui à Saint-Marcellin dans l'Isère à 18h30 et demain dans la Drôme à Perrin également à 18h30. À très vite.
La maîtrise de Radio France recrute.
Bonjour, je suis Marie-Cécile, j'ai 10 ans. Le matin, c'est l'école. L'après-midi, en avant la musique. Et le soir, concert a cappella ou accompagné par les orchestres de Radio France.
La maîtrise cœur d'enfant de Radio France recrute.
Vous avez entre 9 et 15 ans, vous aimez chanter ?
Inscription avant le 12 février.
Renseignements 01 40 71 29 00 ou sur radiofrance.fr.
Rejoignez-nous, c'est gratuit.
France Inter, la différence.
À 16h04, je vous laisse en compagnie de Frédéric L'Odéon, c'est Carrefour de l'Odéon.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. En musique, un même mot peut cacher beaucoup de significations différentes et des résultats souvent assez éloignés. Par exemple, la mazurka, c'est une danse ternaire d'origine très très populaire, polonaise bien sûr, de la région de Mazovie, et Chopin l'a illustré de façon très fréquente et de manière admirable. Khatchatourian, l'arménien, s'en est saisi aussi, il a écrit une mazurka pour la musique de scène de Mascarade, et cette mazurka, elle est très ironique, très vivante, un tout petit peu grinçante, c'est assez différent évidemment de celle de Chopin qu'on entendra après. Mazurka, tirée de la musique de scène de Mascarade d'Aram Khatchatourian, interprétée par l'Orchestre Symphonique du Bolchoï, dirigée par Alexander Lazarev. Ben, comme c'est promis, ça va être tenu. Voici une mazurka de Frédéric Chopin. Alors, c'est moins sonore, c'est moins populaire, le style est plus intime, mais c'est basé toujours sur un rythme de trois temps avec un accent un peu marqué. Ça dépend des fois, on le marque un peu où on veut, ça dépend aussi de l'intention de l'auteur, nous faire rêver peut-être un peu plus là, rêver à des danseurs en train aperçu plutôt que de participer à une grande kermesse. Frédéric Chopin, Mazurka, opus 7 en si bémol.